Allora,
Allora,
nome e cognome.
Nome e prenome.
Buscetta,
Buscetta
Tommaso.
Fu Benedetto e fu
fils de Benedetto e Felicia.
Nato a Palermo,
né giugno, a Palermo le 13 juillet 1928.
Scuola,
niveau d'études, collège. Exempté de service militaire, marié, des enfants, exploitant agricole, déjà condamné.
Ah, ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en place pour l'émission.
Ne fais pas de bruit, t'as pas le d'or.
Une are tout vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Une are tout vous. Now, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
Il reste le dernier grand cinéaste politique italien et un grand cinéaste tout court. Il réussit même ce tour de force de raconter un épisode de l'histoire de son pays et d'explorer en même temps les recoins les plus sombres de l'âme de son protagoniste. Marco Bellocchio est sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Début des années 80, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Un homme va changer l'histoire, Tommaso Buscetta, membre de la Cosa Nostra, va trahir son serment auprès du juge Falcone. Buscetta, premier repenti de cette histoire mafieuse, le traître, c'est le titre de ce grand film, signé Marco Bellocchio, notre invité. Pour cerner le cinéaste, l'œuvre, le contexte italien et ce film, un spécialiste, un historien du cinéma transalpin. Bonjour Jean Gilly.
Bonjour.
Et merci de partager notre enthousiasme sur ce film, une histoire, paradoxalement, dont Bellocchio est le premier cinéaste italien à s'emparer. Le traître sort mercredi prochain. Enfin, les nouveaux films de la semaine entre Ken Loach et Nakash Toledano, un numéro parfait, Des Charbons Ardents ou Braquet Poitiers. On va dire que c'est parti.
Alors, Buscetta.
Lei.
Vous avez rendu.
In sede di istruttoria.
En phase d'instruction.
Ha reso un lunghissimo.
Un très long procès verbal de 487 pages.
Sì.
Oui.
Et confirmo tutto.
Et je confirme tout.
Io sono stato.
J'ai été. Et je reste. Un homme d'honneur. Je suis entré dans la Cosa Nostra avec un certain état d'esprit et je n'ai pas changé. Ce sont eux qui ont trahi les idéaux de la Cosa Nostra. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, je ne me considère pas comme un repenti.
Jean Gilly, ainsi s'exprime Tommaso Buscetta devant ses juges, avant d'évoquer bien sûr le film de Marco Bellocchio, Le Traître. On va le replacer avec vous dans son contexte historique, 78-82, montée en puissance des Corleonesi au sein de l'organisation mafieuse sicilienne, des rivalités entre familles pour le contrôle du trafic d'héroïne qui déclenche une guerre interne. Les Corleonesi, c'est les mafiosi qui viennent du village de Corleone.
Oui, en fait, il y a deux branches principale dans cette organisation mafieuse. Il y a d'une part les palermitains, qui ont leur siège dans la capitale de la Sicile, et puis il y a d'autre part les corléonais, c'est-à-dire ceux qui habitent un gros bourg sicilien, non loin de Palerme par ailleurs, qui est Corleone. Et entre les deux va se développer une espèce de guerre effroyable pour le contrôle du trafic de la drogue. Et ce qu'il y a de terrible dans cette affaire, c'est que ce sont a priori des amis qui d'ailleurs se retrouvent dans le film. Il y a une scène d'ouverture où on voit aussi bien les palermitains que les corléonais tous réunis, mais chacun étant sur ses gardes et sachant que à tout moment la guerre peut éclater.
Les Corleone, c'est bien le personnage repris ensuite par Puzo et par Coppola.
Par Coppola.
C'est eux qui sont allés en Amérique diffuser leur grand savoir mafieux.
Oui, et d'ailleurs après ces mafieux qui sont installés en Amérique reviendront en Sicile au moment de la Seconde Guerre mondiale et aideront les troupes américano-anglaises à prendre pied en Sicile grâce aux contacts qu'ils ont déjà établis avec les mafieux localement.
Cosa Nostra, ça veut dire ce qui est à nous.
Oui, c'est notre chose.
C'est surnommé aussi la pieuvre.
Oui, les deux sont très explicites. Hein. Oui. Bon, il y a ce qui nous appartient et puis il y a ce qui est aux autres. En réalité, tout nous appartient. Oui. Hein, tout est cosa nostra. Hein. Dès qu'il s'agit de... Bon, ce que dénonce d'une certaine manière Buscetta, c'est le goût de l'argent, quoi. C'est-à-dire le désir de faire de l'argent en quantité sans cesse grandissante. Or, avec la drogue, effectivement, il y a des sommes colossales qui sont en jeu.
Et tuer des femmes et des enfants aussi.
Tuer tout le monde. C'est-à-dire n'avoir rigoureusement aucune morale.
Ouais.
C'est-à-dire tout est assujetti au désir de faire place libre. Et c'est d'ailleurs ce qui va conduire Buscetta à prendre ses distances vis-à-vis de cette organisation, lui. Parce que ces mafieux se donnent le titre de homme d'honneur.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ça vient d'où ce terme homme d'honneur ?
Ben, homme d'honneur, c'est-à-dire homme qui respecte une certaine règle.
Un code de conduite ?
Un code de conduite, c'est tout à fait ça. Hein. D'ailleurs, dans certains films plus anciens, on voit qu'il y a chez les mafieux le souci de respecter une sorte de code de conduite, vous avez très bien dit le mot, et au moment où l'argent devient et où les sommes en jeu, parce que il faut bien souligner le fait que la mafia, au départ, c'est un exact d'impôts, quoi, c'est-à-dire qui prélève sa dîme sur toutes les transactions et qui les protège d'une certaine manière. Hein. C'est le cas de Salvatore Giuliano. Bon, donc c'est à partir du moment où on change d'échelle, on va passer à la cigarette qui rapporte déjà beaucoup d'argent,
oui.
Et puis on va passer à la drogue. Le changement d'échelle fait que le goût de l'enrichissement devient prioritaire et du coup, pour l'enrichissement, on est prêt à tout. Y compris à tuer ses meilleurs amis, y compris à tuer à la limite père et mère. Il n'y a plus aucune règle. Et ça, Buscetta ne peut pas le supporter.
Au milieu, il y a un personnage effroyable qui s'appelle Totò Riina.
Alors, justement, la quintessence du mal, en quelque sorte,
oui.
Hein, la quintessence du refus de respecter la moindre règle, c'est Totò Riina. Et Totò Riina, on va le pourchasser pendant de très nombreuses années, on finira par l'arrêter, il finira par passer près de 30 ans en prison hein, avant de mourir. Une fois qu'il sera arrêté, il ne retrouvera plus jamais la liberté. Bon. Mais ce Totò Riina est poursuivi, il a été identifié, et la police a les plus grandes peines du monde à pouvoir le cerner. D'où l'importance des confidences, des révélations que fera Buscetta.
Alors justement, Bellocchio, c'est là où c'est très très intéressant. Au lieu de partir du héros italien, le juge Falcone, il va choisir effectivement son autre protagoniste, Tommaso Buscetta, pour raconter l'histoire de l'intérieur. On va écouter cette scène qui est la deuxième rencontre entre Buscetta et Falcone, où Buscetta en gros explique au juge un petit peu l'organisation.
Repartons de la question que je vous ai posée mercredi. La première, la seule, votre initiation. Quand êtes-vous rentré dans la mafia ?
La mafia n'existe pas, c'est une invention journalistique. Cosa Nostra, on l'appelle, nous les hommes d'honneur. Imaginez une pyramide. À la base, il y a les soldats. Moi, je suis un simple soldat. Le soldat fait serment d'allégeance à Cosa Nostra, pour toujours.
A Cosa Nostra per tutta la vita non si esce da Cosa Nostra.
On ne sort pas de Cosa Nostra. Trois familles forment un canton, avec à sa tête le chef de canton, et au sommet de la pyramide, il y a la commission, avec son chef de commission, élu par les soldats de toutes les familles. J'ai juré allégeance à Cosa Nostra, celle d'avant, il y a plus de 40 ans. J'étais gamin.
Più di 40 anni fa, ero bambino.
Questa organizzazione. Dans cette organisation si bien strutturée, quel est votre grade?
Qual è il suo grado? Simple soldat.
Soldato semplice.
Avec votre prestige, votre autorité, un simple soldat, pourquoi?
La sua autorità, soldato semplice.
Vous avez une autorité naturelle?
È un capo naturale. Il mio carattere.
Je suis comme ça. Commander, ça ne m'a jamais intéressé. Je voulais être libre de voyager, de jouer, de m'amuser. J'ai toujours aimé les femmes. Riina disait, commander c'est meilleur que baiser. Pour moi, c'est le contraire. Et ça, Rina ne l'a jamais supporté. Lui était obsédé par le pouvoir plus que par l'argent. Il ne sait pas en profiter. J'étais parti, j'avais disparu, mais Rina, ça ne lui a pas suffi. Il a fait assassiner la moitié de ma famille, mes fils, pour me forcer à rentrer et me tuer aussi. Cet homme est malade.
Il faut dire, Jean-Gilles, que Buscetta a décidé de parler après son exil au Brésil, où il a ensuite été extradé, et là il a parlé au juge Falcone. Pourquoi le cinéma italien ne s'est pas emparé de ce qu'on se demandait avec Laurent, cette histoire avant? C'est quand même passionnant.
Oui, c'est une histoire passionnante. Je pense que dans l'histoire de la mafia, il y avait de multiples possibilités. Parce que de même, Totorine, à lui seul, aurait pu fournir également
un triptyque, au moins. Oui.
D'une certaine façon, Sorrentino évoque le cas de Rina dans Il Divo.
Oui.
C'est un personnage qui est omniprésent. C'est un personnage surtout qui est omniprésent parce que sa puissance est telle. Et dans le film, c'est pas au cœur de la réflexion, mais la puissance est telle qu'il finit par attirer à lui les hommes politiques. C'est-à-dire les hommes politiques, et notamment Andreotti, qui s'en est sorti fort habilement. Il est à peu près prouvé, même si le procès qui lui a été intenté a fini par le blanchir, faute de preuves. Il est probable qu'Andreotti avait des contacts avec Totorine. Hein. Donc que le pouvoir mafieux se mêler au pouvoir officiel. Et ça, en fait, c'était le grand thème des films de Rosi. Rosi,
est-ce que... Justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même pour les cinéastes italiens de parler de la mafia? Rosi, par exemple, avec l'affaire Mattei, a eu quand même de gros soucis.
Bien sûr.
Un collaborateur est mort pendant le tournage du film.
Journaliste.
Donc, est-ce qu'au fond, c'est pas ça le problème du cinéma italien par rapport à ça? C'est une peur, et tout à fait légitime, de parler de ça, quoi. On sait bien aussi ce qui advient de l'auteur de Gomorra, qui est en liberté très très surveillé.
Très très surveillé.
Sauf que là, c'est l'histoire ancienne.
Oui, mais...
Non, mais c'est-à-dire... C'est
l'histoire ancienne qui dure. Enfin,
c'est un sujet qui reste brûlant,
chaud,
qui reste chaud.
Ouais.
Il y a un cinéaste qui est par ailleurs un homme de radio et de télévision qui s'appelle Pier Francesco Di Liberto, surnommé PIF, qui a fait un film qui s'appelle La mafia ne tue que l'été. La mafia uccide solo d'estate.
Ouais.
Et dans ce film, il décrit, à travers l'histoire d'un gamin qui grandit et qui admire Andreotti et qui rêve même de lui ressembler, il décrit tout le processus qui gangrène la société sicilienne. Et il explique que précisément, quand 10 ans plus tard, il tourne un autre film qui s'appelle « Bienvenue en Sicile », que vous avez peut-être...
Oui.
Qui est intéressant, sur le débarquement des Américains et des Anglais en Sicile, il montre qu'il peut aborder ces sujets en étant moins menacé que ne l'étaient les cinéastes qui avaient travaillé dans les décennies précédentes. Autrement dit, d'une certaine façon, la mafia n'a absolument pas disparu, mais disons qu'elle s'est, civilisée. Entre guillemets.
Entre gros guillemets. Hein.
Entre gros guillemets. Hein. C'est-à-dire que quand même cet épisode effroyable de la destruction à mort entre les palermitains et les corléonais, c'est très daté dans le temps. Hein. Aujourd'hui, ce ne serait plus possible. Ce qui ne veut pas dire que la mafia a perdu de son emprise, loin de là. Mais elle a modifié son mode de procédé.
Avant d'écouter Bellocchio, on va le resituer ensemble. Jean Gilli né en 39, grand témoin de l'histoire italienne, bien sûr. Et puis, d'ailleurs, c'est une histoire qu'il a un petit peu mitraillée, mais qu'il a aussi traité de façon intime via ses personnages. La religion, l'armée, la famille, l'église, les brigades rouges, la montée du fascisme, un regard singulier, intime. Il a été très décrié au départ, d'ailleurs, Bellocchio. Les poings dans les poches.
Oui, Bellocchio, les poings dans les poches a suscité de violente polémique.
Oui.
Il y a d'ailleurs des textes de Pasolini qui dialogue. Alors là, là, c'est pas pour le critiquer, mais pour dialoguer. Il y a un dialogue entre Pasolini et Bellocchio, et un dialogue entre Pasolini et Bellocchio, on peut imaginer qu'on est quand même à un niveau de réflexion.
Niveau. Oui. Oui. Il a prévu quand même, quelques années avant, les soulèvements de mai 68. Et des...
Absolument. Ouais. Alors, le cas de Bellocchio est un cas quand même assez singulier, parce que on trouve dans son œuvre, et vous l'avez très bien rappelé en énumérant les sujets qu'il a abordés, on trouve une espèce de disponibilité, d'ouverture. J'ai lu récemment qu'on lui avait proposé de travailler sur le procès de Nuremberg et qu'il y réfléchissait.
Hein, oui, j'ai vu ça, son nouveau projet.
Bon,
oui,
son nouveau projet. Bon, donc, alors que souvent on dit, par exemple, Bertolucci disait de lui-même qu'il n'avait jamais fait qu'un seul film. Et que tous ses films sont des variantes sur le même film.
Oui, pas Bellocchio.
Pas Bellocchio.
Non, c'est vrai.
Et ça, c'est si on regarde les carrières de Rossi, de Petri, des auteurs de comédie. Mmh. Finalement, il y a une certaine homogénéité dans leur travail. Au contraire, Bellocchio s'ouvre à toutes les influences et à toutes les thématiques.
Nous l'avons rencontré, Marco Bellocchio, cette semaine à 80 ans. Il porte encore beau et même très beau. Marco Bellocchio qui sera précédé d'une scène de son film Le Traître, la dernière rencontre entre Buscetta et Falcone.
Ça ne fait pas honneur à votre intelligence. Vous tuez des gendarmes, des juges, vous condamnez avec l'héroïne des milliers de jeunes.
Je vous parle d'avant l'héroïne. Ensuite, je suis
avant
parti.
Avant l'héroïne, les hommes d'honneur ne tuaient pas. Les journaux sont remplis de crimes atroces.
Les cronaches sont pleines de délits atroces. La vieille nobile mafia.
La bonne vieille mafia, c'est une légende, voilà tout. Il y a autre chose que je dois vous dire, Buscetta. On vous surnomme le boss des deux mondes. Comment avez-vous gagné ce titre si vous n'assumez pas le moindre crime? En avouant quelque chose, vous seriez plus crédible. Vous n'aimez pas tirer, mais vous aimez regarder. Ne me prenez pas pour un con, Buscetta.
Non mi prenda per il culo, Buscetta.
Monsieur Falcone, nous avons fait un pacte. Moi, je le respecte.
Vous pouvez signer.
Può firmare.
Vous allez devenir une célébrité. Mais ils vont chercher à vous détruire. Professionnellement et physiquement.
On peut mourir pour des tas de raisons. Un accident de la route, un avion qui explose en vol, le cancer. La mort nous accompagne toujours. On meurt. Point final.
Si muore e basta.
Moi, je voudrais mourir dans mon lit. Ça me suffirait. Ce serait une belle victoire.
Bonjour Marco Bellocchio.
Bonjour.
Vous dites de Buscetta, c'est ni un héros, ni un lâche. Donc vous avez dû naviguer entre ces deux notions. Mais c'est pas non plus un homme ordinaire, Buscetta.
Non, non, un homme abbastanza eccezionale.
C'est un homme assez exceptionnel.
Lui non era un uomo colto,
il n'était pas un homme éduqué, il n'était pas intéressé à la culture, il ne lisait pas. Mais en écoutant ceux qui l'ont connu, eh bien, il est un personnage avec beaucoup de charisme, un chef véritable, même s'il n'a jamais accepté des rôles de commandement de Cosa Nostra. Il se définit comme un simple soldat. Il n'est ni un héros ni un lâche, dans le sens que ce qu'il a fait, il l'a fait non pas parce qu'il s'est converti aux lois de l'État, mais pour sa survie, pour respecter la loi de survie, parce que ça lui convenait, car il savait que s'il n'avait pas collaboré, il aurait été tué, il aurait exterminé sa famille, et donc il a préféré parler, donc il a préféré collaborer, mais de manière limitée, il n'a pas tout dit.
J'ai l'impression qu'il vous fascine un peu quand même.
Non, mi fascina. Non, è un uomo.
Oui,
sì, è un personaggio.
C'est un personnage.
Io non ho nulla con, di comune con lui.
Je n'ai rien en commun avec lui.
Surtout comme caractère.
Surtout comme caractère. Non pas pourquoi
più,
je suis. Non pas parce que je suis bon, plus bon que lui.
Suo,
mais parce que
il suo caractere,
son caractère.
Piuttosto
est plutôt
discreto, silencieux,
silencieux,
et però
mafieux, mais c'est un homme courageux. Il craignait pas la mort, mais ne voulait pas mourir tué par ses ennemis. Et ceci m'a intéressé, m'a fasciné. D'ailleurs, je n'aurais pas fait un film si je n'avais pas été fasciné.
Il a un code d'honneur, mais le code d'honneur, ça n'existe pas. Ça n'a pas empêché des assassinats pendant des années.
Oui, le code d'honneur, c'est quelque chose,
c'est une sorte de mythologie mafieuse. Mais surtout, c'est une mythologie de Buscetta. Un peu pour défendre soi-même. Il soutenait l'existence d'une bonne mafia par rapport à une mauvaise mafia ou une mafia méchante. C'est-à-dire, sa mafia dans laquelle il était rentré, il avait des règles d'honneur et par lesquelles il faut pas tuer les enfants, les femmes, les juges, on aide les plus pauvres. Donc c'est une sorte de Robin Hood de la Sicile. En vérité, Falcone lui conteste cette mythologie, donc cet honneur, et lui dit non, la mafia a toujours été une société criminelle qui a commis les pires des crimes.
Mais est-ce que Falcone n'est pas, au-delà de son intelligence, un peu naïf quand il lui dit « la mafia est un phénomène humain, donc elle aura une fin ».
Non, c'est un grand lecteur de Montaigne, Falcone. C'est un positiviste.
Uno che vede...
C'est quelqu'un qui voit la réalité sans aucune idée transcendante. Un peu comme dans l'histoire humaine, il y a beaucoup de grands personnages qui ont vécu une chute, un déclin, et beaucoup de sociétés à un certain moment ont eu une fin. Et lui, il a répondu à une certaine opinion publique qui pensait que la mafia était quelque chose de omnipuissant, indestructible, quelque chose que l'État n'aurait pu aucunement combattre. Au contraire, Falcone, il a démontré que, en partie, même si la mafia existe toujours, la mafia pouvait être combattue et aussi vaincue. Il disait, il ne faut pas avoir peur. Il faut, évidemment, l'affronter et la combattre. Donc, dans un sens positiviste.
J'arrive à la question cruciale. Pourquoi Buscetta a trahi, a parlé? Pourquoi, selon vous?
Lui, il n'utilise pas ce mot. Lui, il ne considère pas d'avoir trahi. Au contraire, ce sont les autres qui ont trahi, c'est-à-dire Rina et les Corleonesi, qui ont trahi les grands principes de la mafia. Lui, il l'a fait non pas pour une raison ignoble, mais pour des raisons personnelles de autodéfense, de survie personnelle, donc la sienne, même s'il ne craignait de mourir. Mais c'était la survie, la sienne, et de toutes les personnes qui restaient de sa famille, la jeune femme, les enfants et les enfants des autres mariages. Il a eu 7 enfants, c'était l'époque des familles nombreuses, et c'est pour cette raison qu'il a trahi, mais aussi pour un sentiment de vengeance qui existe, c'est-à-dire vous. Vous avez été des assassins de ma famille qui n'avaient aucune responsabilité. Maintenant, je veux me venger contre vous et notamment contre Rina et Calò, ce dernier ayant été son ami et qui l'a vraiment trahi, et tout le pouvoir des Corleonesi également, qui était le pouvoir dominant au sein de Cosa Nostra à l'époque.
Falcone a aussi participé à la libération de cette parole. Il a su lui parler, il a su bien le traiter aussi. C'est très important, le rapport entre les deux hommes.
Lui, à un
certain moment, Buscetta a fait confiance à Falcone, car il ne faut pas oublier que Falcone était de Palerme. Et il venait de la même ville, presque du même quartier. Donc, il le connaissait profondément et à un certain point, Falcone, avec sa loyauté, avec son recul, car ils ne sont jamais serrés la main, ne serait-ce qu'à la fin. Et donc, Falcone le traitait non pas comme un ami, mais cette loyauté dont il a fait preove. Cette discrétion aussi, ce fait de ne pas vouloir se lier d'amitié avec Bouchet, eh bien, en quelque sorte le fascinait. Et donc Bouchet avec Falcone s'est ouvert. Au contraire, à la mort de Falcone, Bouchet a voulu revenir en Italie pour dire d'autres choses qui n'avaient pas été, qui ne s'étaient pas dit au cours de leurs entretiens. Et ceci pour dire que Falcone était un homme qui avait acquis la confiance.
Vous filmez le procès comme un spectacle, avec les parrains derrière les grilles, un peu comme des bêtes sauvages, on est un peu aux arènes. Mais ce procès a été vécu, organisé, comme un spectacle, et vous le filmez comme ça.
Ce sont les mafieux qui ont décidé d'exploiter le procès pour en quelque sorte
per ostacolare il processo stesso, cioè loro vedevano che questo
mettre des obstacles au procès.
Era il primo processo.
C'était le premier procès.
Era il primo processo in cui tanti mafiosi erano stati arrestati.
Dans lequel il y avait un si grand nombre de mafieux qui avaient été arrêtés et une cour exprès avait été construite pour le déroulement de procès. Donc ils avaient compris que la bataille était déterminante et décisive et ils cherchaient à tout prix de ralentir le procès, et de empêcher qu'il arrive à une fin. Donc les mafieux n'étaient pas des comédiens de profession, mais ils avaient recours à toutes les armes dont ils disposaient. Ils se cousaient la bouche, ils criaient, ils se déshabillaient, ils avaient des crises épileptiques, justement pour créer des obstacles sur le parcours du procès. Donc ce théâtre, c'est un théâtre calculé.
Che però a me interessava rappresentare così.
Che j'étais intéressé à représenter en tant que tel, donc ces cages, on se croirait dans un zoo, comme dans un amphithéâtre, genre Colisée romain, quoi. Donc un grand théâtre et une grande œuvre, car il y a aussi la dimension de l'opéra. Et j'ai utilisé des fragments d'opéra, de Verdi surtout, justement pour souligner ce spectacle.
In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise prima di Palermo, in data 16 dicembre 1987, visti gli articoli di legge.
Jean Gilly, vous nous précisiez que ce procès avait duré 2 ans, et comme a duré 2 ans la préparation de ce film, Le Traître, avec des rencontres, des archives, 6 mois de tournage à Palerme, à Rome, à Rio, pour un énorme budget. Et le film a très bien marché en Italie.
Oui, le film a très bien marché en Italie. 2 ans de procès, 346 condamnations.
Oui, hein. C'est énorme, à partir d'un seul homme.
346 condamnations. Hein. Donc il y a eu des appels, il y a eu des confirmations, et dans l'ensemble, toutes les peines qui ont été prononcées ont été exécutées. Hein. Il n'y a pas eu dans les appels, même en cours de cassation, tout le cheminement du procès a été confirmé par la justice italienne, et Totorine a finalement, après plus de 20 ans de détention, est mort en prison. Quoi. Ouais. Et dans le fond, la grande vengeance de Bouchet, c'est que lui, en Floride, est mort dans son lit, qu'il espérait, alors ouais. Que l'autre meurt en prison, malade.
Et ce qui est fantastique avec ce film qui était extrêmement bien documenté, parce que tout ce qui se dit, et ce sont des procès-verbaux, en gros, ces dialogues, hein. Et en même temps, il y a beaucoup de cinéma dedans. Avec Laure, on avait été fasciné par la scène de l'assassinat de Falcone. Et il m'a expliqué, Bellocchio, qu'il l'avait tourné parce qu'il l'avait tourné depuis l'intérieur de la voiture, ce qui n'avait jamais été filmé comme ça.
Oui, l'assassinat de Falcone, et on le voit aussi dans Il Divo, où on a la voiture qui est représentée de manière opposée à la réalité. C'est-à-dire, normalement, elle est au sol, elle explose, et elle part vers le ciel. Et dans le film de Sorrentino, du ciel, elle vient s'écraser au sol.
Donc, c'est, deux conceptions du cinéma.
Deux conceptions du cinéma.
Ouais, c'est drôle.
Mais parce que cet assassinat de Falcone, c'est un assassinat étonnant. Réussir sur une autoroute à organiser les choses de telle sorte que la charge est tellement forte que sur 50 mètres, toute la chaussée vole et que Bellocchio, justement, peut-être parce qu'il connaissait le film, sûrement, mais il connaissait le film de Sorrentino, s'est posé la question, comment représenter et comment trouver une solution pour le représenter différemment. Et il trouve cette solution magistrale de le filmer de l'intérieur. Mais il faut dire qu'en même temps, c'est quand même, d'autant que depuis la chose a été démontrée, on a longtemps, enfin on a la presse, et les informations données comme responsable seulement la mafia. Or, en réalité, la mafia a travaillé en totale connivence avec l'État. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé des forces politiques qui, à commencer par Andreotti, qui ont soutenu le plan de la mafia pour faire disparaître Falcone. Et n'oublions pas, deux mois plus tard, l'autre juge qui menait ses procès, qui était Borsellino, qui était un autre juge sicilien, ce sont les seuls qui ont réussi à aller jusqu'au bout, a également péri, alors lui, dans un attentat dans une rue de Palerme.
Et là, d'ailleurs, on voit derrière cette scène les mafieux qui trinquent, qui boivent le champagne après la... Ça, c'est une grande scène de cinéma. Il y en a une en Amérique quand il est au restaurant, quand il sent qu'il est suivi, et à travers les paroles d'une chanson, c'est remarquable aussi.
De même... Non, mais c'est un grand metteur en scène, et c'est pas seulement un cinéaste politique.
Non.
Rosie aurait fait quelque chose de très différent sur ce sujet.
Il y a une chose intéressante, c'est que quand même, Bellocchio dit, au fond, ce qui me rattache au personnage, c'est que moi aussi, je suis un traître à ma culture d'origine, ma culture catholique.
Oui, ça, il y a tout un développement. Je suis tombé sur un entretien où il explique comment il a trahi sa culture d'origine, il a trahi sa famille, d'une certaine manière, il a rompu avec sa mère, qui a très mal vu l'évolution que prenait, le tour que prenait sa vie. Et puis, il fait même allusion qu'il a également trahi des femmes, quoi.
Comme quoi tout film est autobiographique.
Voilà, comme quoi tout film. Mais je pense que Bellocchio, au-delà de la diversité, comme on l'a déjà souligné, de ses films, c'est qu'il y a toujours une touche d'autobiographie. Et c'est quelqu'un qui, à l'évidence, est parcouru par le doute, parcouru par l'inquiétude, parcouru par la question de savoir qu'est-ce qu'il convient de faire. Il a ce miracle d'avoir 80 ans et d'avoir encore une énergie, ce qui fait qu'alors qu'il pourrait passer à autre chose, il est déjà à réfléchir au procès de Nuremberg, par exemple.
Et ce qui est génial aussi, c'est qu'il va à l'intérieur, ce que je disais en commençant, de l'âme de ces personnages, on voit beaucoup les rêves et les cauchemars de Buscetta. Et ça aussi, c'est du cinéma à l'intérieur de cette histoire. C'est
comme on voyait ceux d'Aldo Moro dans Bonne Journée Notte.
Oui, exactement.
Bien entendu. Ou comme on voyait ceux de Mussolini dans Vinci.
Ouais.
Et ça, il faut dire que sa formation à l'égard de la psychanalyse et le fait d'avoir travaillé avec un psychanalyste à un moment de sa carrière,
plateaux,
qui était présent sur ses plateaux, ce qui n'a d'ailleurs pas conduit au meilleur film.
Non, mais, c'est vrai.
Mais en tout cas, ça a laissé des traces sur sa façon d'aborder les sujets qui pourraient être vus que de manière rationnelle, de réflexion sur l'histoire politique et sociale de l'Italie. En fait, il en fait de grands drames où il y a une dimension humaine.
Et intime.
Et intime, absolument.
Et d'ailleurs, il y a aussi encore une grande scène chez le tailleur quand il croise Andreotti. Bon, bref. Il y a deux immenses acteurs. Il y a Pier Francesco Favino, donc, qui joue Buscetta, et Fausto Russo Alesi, qui joue le juge Falcone. Le film était à Cannes. Il n'a rien eu. Et vous nous disiez, hors micro, qu'il n'avait jamais rien eu à Cannes.
Non, il n'a jamais rien eu à Cannes. Bellocchio est souvent venu à Cannes. On pensait d'ailleurs, on est quelques-uns à estimer énormément son travail, que peut-être cette année était la bonne année.
Ah ben non, c'était une bonne année.
Et ça pouvait être aussi un prix de scénario.
Oui.
Ah, bon, ça aurait pu.
Oui, bien sûr.
Bon,
bien sûr.
Ça aurait pu
Laquelle
être un prix.
Qu'il a eu aurait pu avoir le grand prix. Enfin, il fallait monter une marche à chaque fois.
Un jeu de chaise musicale.
un prix d'interprétation.
Oui, ben bien sûr. Merci, en tout cas, Jean-Gilly, de votre science. Vous restez avec nous, bien sûr. On se retrouve pour les sorties après Christophe, oh mon Dieu, la BO du film de Bruno Dumont, Jeanne.
Oh, mon Dieu. maison. Écoutez bien ma prière. Je vous prie de bien vouloir accepter cette prière comme étant vraiment ma prière de moi. Parce que tout à l'heure, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je ferai quand je serai dans la rue. Sur la place de ce que je dirai, pardonnez-moi, pardonnez-nous à tous le mal que j'ai fait. Mais je sais bien que j'ai bien fait de vous servir. Nous avons bien fait de vous servir ainsi.
Les grands historiens peuvent se tromper.
Oui, on a
reçu l'appel de Cannes. Voilà, Jean Gilly, vous nous disiez effectivement que Belloqueux a eu un prix par procuration, oui. Le saut dans le vide, un prix interprétation pour Piccoli et Anouk Aimée en 70.
Mais il faudrait primer le cinéaste aussi.
Ouais, bien sûr. Les sorties de la semaine, mais on va quand même revenir en arrière parce qu'on était à Lyon, on n'a pas eu le temps de l'évoquer. C'est L'Angle Mort de Patrick Mario Bernard et Pierre Trévidic. Dominique Brassan a le pouvoir de se rendre invisible, il ne s'en sert pas beaucoup. À quoi bon d'ailleurs, il a fait de son pouvoir un secret vaguement honteux qui dissimule même à sa fiancée Viveka, et puis vient un jour où le pouvoir se détraque et échappe à son contrôle en bouleversant sa vie, ses amitiés, ses amours. À l'origine, c'est une idée d'Emmanuel Carrère, un homme invisible perd son pouvoir, et finalement un thème repris par les deux cinéastes. Le grand intérêt, c'est de faire de ce personnage un anti-super-héros, Laurent, quelqu'un qui subit son pouvoir plutôt que de l'exploiter. Quelle belle idée.
Oui, oui, très belle idée. Bah, le cinéma d'auteur français répugne souvent à aller vers le genre, quoi, voilà. Et là, franchement, les deux cinéastes y vont avec bonheur, je trouve, avec une sorte de radicalité. C'est vraiment une histoire de fantôme, voilà, une histoire d'homme invisible, on peut le résumer comme ça. Et en même temps, évidemment, il y a du cinéma d'auteur, c'est-à-dire il y a une attention au personnage, il y a une complexité, il y a une proximité avec tout ça qui est tout à fait séduisante et qui fait que bon ben voilà, on a les deux, on a le cinéma d'auteur et le film de genre, c'est très très plaisant.
Vraiment. Pareil pour par rapport à Lyon, on n'a pas pu rappeler la sortie, oui, de Martin Eden. J'aime tant ce film du cinéaste italien Pietro Marcello, la remarquable adaptation du célèbre roman Jack London, à Naples au cours du XXe siècle, le parcours initiatique de ce jeune marin prolétaire individualiste dans une époque traversée par la montée des grands mouvements politiques. C'est un grand récit d'apprentissage, un film politique aussi qui brouille les pistes et les temporalités. C'est exaltant, poétique, inventif, libre, lumineux, déchirant comme son acteur Luca Marinelli. Si après ça vous n'allez pas le voir, aïe aïe aïe. Braque Poitiers de Claude Schmitz, Laurent Thomas et Francis Braque Wilfried, propriétaire d'un ensemble de car wash. Contre toute attente, celui-ci se montre ravi de cette compagnie venant égayer sa vie solitaire et les autorise à piquer dans la caisse. Bientôt, Hélène et Lucie, deux copines du Sud, les rejoignent pour profiter de l'été à Poitiers. Schmitz tournait chronologiquement, captant au jour le jour les relations entre ses comédiens et discutait le soir avec eux de l'avancée du projet. Et cette question, Laurent, qui traverse le film, comment évoluer dans une société où sa façon de penser et de vivre est perçue comme une étrangeté?
Oui, alors c'est le prix Jean Vigo de 2019, oui, faut le dire. Hein. Et la question, alors vous transformez le film en une sorte de pensum philosophique, mais c'est pas ça du tout, évidemment. Ça aurait pu être signé Moki dit, en son temps, ça pourrait être de l'épine et Carverne, c'est-à-dire c'est un film qui prend son temps, c'est un film qui n'a pas de, effectivement, qui a une chronologie comme ça dite, mais sur le papier, mais qui est extrêmement plaisant à voir et à regarder parce que ces gens sont en liberté. Vous avez très bien rappelé le motif principal, absolument brinque-ballant, de l'improbable rencontre de ces gens entre lavage de voiture et braquage à la petite semaine. Donc c'est un cinéma tout fin, tout qui est sur le fil du rasoir. Ça passe pas parfois. On est un peu agacé. C'est entre la fiction et la réalité. Mais je trouve que vraiment c'est une des très très jolies propositions de la semaine. On rappelle que ça s'appelle Braquer Poitiers.
Sorry We Missed You, lui aussi était à Cannes. Le Ken Loach, oui. Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle, alors qu'Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile. Ricky enchaîne les jobs mal payés et il réalise que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison à Bivant. Alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des répercussions. Ken Loach, cinéaste octogénaire, un petit peu comme Bellocchio, et pareil que Bellocchio, est toujours point levé contre les injustices depuis qu'il fait du cinéma. Un cinéma qui s'accorde cette fois à l'ubérisation du monde et ses répercussions dramatiques sur la cellule familiale, un monde qui se rétrécit, réduit à deux parents, deux enfants, la famille dernier rempart, même plus d'amis pour aller au pub, ces fameuses scènes parfois joyeuses qui ont parcouru tout son cinéma, plus de football non plus, son autre passion, on s'endort même dans le film devant le match, c'est dire. Et à chaque fois, devant un nouveau Ken Loach, on se demande ce qu'il peut encore nous dire. Pas d'exposé, mais toujours une expérience concrète où comment le travail peut bousiller un couple, une éducation, des rêves, des vies, ces personnages, à l'inverse par exemple de ceux de Parasite de Bong Joon-ho, n'ont même plus la force de trouver des stratagèmes pour biaiser les riches, ce sont des victimes en circuit fermé, harassé par des horaires surréalistes. Il n'y a plus de syndicats non plus pour les protéger. Alors comment faire du cinéma avec ça? Eh bien en racontant une famille de l'intérieur, des personnages pleins de rage et de tendresse aussi, et des acteurs magnifiques pour les incarner. Sorry We Missed You, double sens de ce titre. Désolé, vous nous avez manqué, petit mot que le livreur laisse sur le colis. Et ce deuxième degré, désolé, vous n'avez pas été là quand on avait besoin de vous. En gros, vous n'êtes plus là pour nous protéger. Merci.
À notre syndicat.
5 est le numéro parfait. Là, je pense qu'on va être d'accord, mais dans le sens de Igor, adapté de son roman graphique, Pepino Lo Chichero, ex-tueur à gage de la Camorra, est fier de son petit-fils qui gravit les échelons du crime organisé, mais quand celui-ci est froidement tué dans un guet-apens, il reprend du service. C'est référencé, documenté, élégant, stylisé et pire, maniériste, vain, sans émotion, et même Tony Servillo, pourtant le plus grand acteur du monde, ne parvient pas à exprimer son talent. Laurent.
Oui, on a scrupule à évoquer ce film quand on vient de parler pendant une demi-heure de Marco Bellocchio.
Il vaut mieux le tirer à la partage.
Voilà, bon, nous sommes trois.
Bon, hors norme, Éric Toledano, Olivier Nakache, Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hyper complexe. Une histoire inspirée de celle de Stéphane Benamou et de son association Le Silence des Justes, qui traite depuis 1987 des cas sévères d'autisme associés à une autre rencontre des réalisateurs avec Daoud Tatou, un éducateur pour autistes, donc un juif, un musulman, et le duo cinéma est formé comme celui d'Intouchables, ajouté de vrais autistes dans le casting. On imagine un tournage pas facile du tout, des jeunes de cité, plus un bâton dans les roues, l'élément contraire, deux inspecteurs qui mènent l'enquête sur l'association non homologuée par les services sociaux, égale un film compassionnel, plutôt très bien documenté, famille désemparée, hôpitaux surchargés et manque terrible de structure d'accueil, difficilement critiquable de ce point de vue, bref, un cinéma empathique, celui de Nakache Toledano, qui rêve depuis qu'ils font des films d'un monde dont ils gomment certaines aspérités pour privilégier leur message, on peut au-delà des différences, en l'occurrence confessionnelles, s'unir contre les injustices, pour le bien commun, avec quelques gags, c'est quand même un feel-good movie, peu de nuances et un bon gros discours moralisateur bien déclamé par de bons acteurs, Cassel et Kateb.
Ben oui, à force de dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, d'abord on perd de vue le cinéma quand même, ça devrait être du cinéma et pas seulement un film à thèse en quelque sorte, ou à message qui fait la une du Parisien sur son contenu, et puis cette façon aussi quand même un peu embêtante de stigmatiser à ce point-là. Les deux seuls personnages antipathiques du film, ce sont les représentants de l'État. Franchement, je crois que c'est un petit peu maladroit quand même dans le contexte actuel. Je crois que les choses sont plus complexes et c'est justement cette complexité-là, y compris leur sur la maladie. L'autisme, c'est quelque chose de suffisamment difficile à vivre pour les familles qui vivent avec ce handicap-là, pour ne pas faire cette espèce de vision assez bisounours au fond du monde et des choses, et c'est un petit peu embêtant, voilà, je trouve.
Les charbons ardents, hein, doc de Hélène Milano, que signifie devenir un homme aujourd'hui? Ils ont entre 16 et 19 ans, grandissent en lycée professionnel, y interrogent les normes et les codes de la virilité, la place sociale et le monde du travail qui les attend, les relations entre garçons, l'amour. Alors, voilà des vraies confessions, et moi je trouve qu'ils font très peur à nos oreilles et à nos consciences d'adultes, puisque ces élèves représentent les adultes demain, aux valeurs machistes, ultra traditionnelles, conduits le plus souvent par leur religion. C'est le mode d'emploi de la vie, dit l'un d'eux. Mariage avec une fille vierge, les autres en gros sont des salopes, qui ne se respectent pas, mais les garçons s'accordent eux le droit de consommer avant le dit mariage. Le reste c'est l'argent, je dois en faire le plus tôt possible, moi je suivrai l'argent. L'honneur, dit l'un, c'est la même chose que la virginité d'une femme, quand c'est perdu, c'est perdu. Éviter également de se faire humilier, ne pas montrer sa fragilité, ne parlons même pas de l'homosexualité, très mal vue, pour ne pas dire pire, le tout associé à la peur de l'avenir. Un avenir qui démarre avec de telles valeurs, moi je me demande à quoi il va ressembler.
Oui, mais alors... Je
crie pas le film.
Non, mais je trouve que tout ce que vous dites est parfaitement juste et parfaitement dans le film. Là, le pendant, en quelque sorte, c'est ce qui ressort de ce que ces jeunes ados ouvriers prolétaires de 16-19 ans, entre 16 et 19 ans, disent, c'est le mépris de classe dont ils sont les victimes.
Exactement,
permanentes.
Aussi.
Et ça, c'est l'inverse. Enfin, c'est le côté sombre du encore plus sombre peut-être du propos, mais et qui va dans le sens de la reproduction sociale dont vous parliez.
On a vraiment peu de temps. Mon premier festival, 15e édition, déjà jusqu'au 20 octobre, dans 14 lieux à Paris, pour les tout petits, jusqu'à 12 les plus, sans film. Et la marraine, c'est Léa Drucker. Laurent.
À Villerue, comme par hasard, le festival du film italien, Jean Gilly, c'est pour vous. 42e édition du 25 octobre au 11 novembre, courez-y. À Villerue, c'est là où il faut voir du cinéma italien. On n'a pas dit que Cartouche aussi ressort en salle et en DVD.
Des cadeaux pour Jean.
Et puis des cadeaux, les cadeaux. Alors que vous avez plein d'actualités, on n'aura pas le temps d'en parler, mais on va mettre tout ça sur le site. Les cadeaux, c'est, nous vous offrons d'abord un livre que vous n'avez pas écrit sur le cinéma italien. On a cherché, on a trouvé, ça y est, c'est le seul. C'est le dictionnaire du cinéma italien de 1922 à 1945, d'Alessandro Corsi. Vous n'avez pas écrit dedans. Chez Vendémiaire,
personne n'a écrit dedans. C'est un ouvrage, bien que ce soit un dictionnaire, c'est écrit par une seule personne.
C'est vrai. Et puis, écoutez, vous avez préfacé beaucoup de chez Tamasa de DVD de Comencini. On vous en offre un autre dont vous n'avez pas fait les DVD, là, dont vous n'avez pas fait les bonus. Là aussi, on a cherché longtemps. Les aventures de Pinocchio de Luigi Comencini. Voilà, c'est au pacte.
Et bientôt bientôt l'Italie au miroir de son cinéma dans la
Radici.
Là en ce moment. Un grand merci à Xavier.
C'est moi qui vous remercie, mais surtout je veux aussi rappeler que Bellocchio concourt pour l'Oscar du meilleur film étranger au début de l'année prochaine.
D'accord.
On lui alors souhaite peut-être le meilleur.
Un grand merci à Xavier Pestugia qui a réalisé cette émission, à Olivier Poujade et Eric Oswald pour le doublage. On laisse le générique de fin en français avec le cinéaste italien Marco Bellocchio.
C'est une émission inspirée par tous les films du cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Sporto Cantès a écrit la musique du générique. Le morceau a été choisi par Muriel Pérez. Ophélie Vivier s'est occupée de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacamp. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delma. Et moi, Marco Bellocchio, j'étais.